Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, édition du 29 octobre 2022. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
As-tu hâte de te déguiser, ça s'en vient?
J'ai très hâte de me déguiser.
Avis à tous.
Nous déguiserons ensemble.
Exactement, nous nous déguiserons le 31 octobre pour un live en direct dans la Grosse Brune qui va avoir lieu, évidemment, le 31 octobre à 17h sur ma page Facebook, sur la page Facebook du Guide de l'Auto. Alors, soyez-y.
Ce sera festif.
Et ce sera probablement brun aussi.
Ce sera très brun.
Exactement. Alors,
couleur du chocolat.
Oui.
Chocolat au lait.
Voilà. Ford Escape 2023, des changements.
Oui, effectivement. Donc, modèle de mi-génération, hein. On arrive déjà avec ça. On a un peu de retard à rattraper, j'ai l'impression, avec l'Escape.
Mais on n'a pas reconnu le succès escompté.
Ben, on n'a pas été capable de répéter le succès qu'on a déjà connu.
Parce qu'il fut une époque où l'Escape, c'était le plus vendu dans le segment. On n'est plus là.
Non, c'est ça. Et il a perdu au fil du temps son allure un peu costaude, son allure un peu carrée, son allure...
Ben, on a donné au Bronco Sport, remarque.
Oui, mais donc on sépare finalement la pointe de tarte à deux. Là. C'est... Il est trop tôt pour dire, à mon avis, si le Bronco Sport est un succès, là, mais on confirme
que pas tant que ça.
Pas tant que ça. Enfin, donc pour 2023, une mise à jour. Il est prévu qu'il arrive dans les concessionnaires dès le début de l'année prochaine. Et on a remanié un peu la gamme et les noms donnés au modèle. Donc, on ajoute une version ST-Line qu'on avait déjà avec le Edge, si je ne me trompe pas.
Saint-Lin.
Ouais. Après Saint-Lin, on a Saint-Lin. Ah, vois-tu? Ouais. Je ne l'avais pas vu, mais elle est excellente. Et essentiellement, on a un habillage noirci au complet, comme c'est la mode.
Ce qu'on le fait avec le Edge, là.
Oui, exactement. Donc, ce n'est pas une version ST peu réduite, performance, mais on a un habillage plus moderne, peut-être avec un petit peu plus de personnalité.
Et on peut obtenir le 2 litres avec cette version-là.
En fait, on peut obtenir le moteur à 3 cylindres, on peut obtenir l'hybride, on peut obtenir l'EcoBoost de 2 litres. Bref, on peut obtenir la gamme...
Essentiellement, on souhaite que ce soit la version la plus vendue, là.
Oui, exactement. Exactement.
Parce que si on offre ces trois motorisations-là, on nivelle vers le haut, évidemment. Puis bon, l'Escape se vend de moins en moins. Les versions titanium.
L'habillage tout chromé, ça fonctionne quand même moins qu'avant. Ouais, là. Même chez Honda, on l'a compris, ça. Et chez Ford,
tout à fait.
Ça s'en vient tranquillement. Et bon, tu parlais des mécaniques. Quand même, un point intéressant à souligner. Bon, on conserve le moteur à 3 cylindres, le 2 litres turbo, d'accord. On conserve l'hybride traction et on conserve l'hybride...
4 roues motrices.
Oui, et l'hybride rechargeable, mais on a un peu joué avec la puissance, qui est quand même assez surprenant. On avait 221 chevaux.
Ouais.
Et là, on en a 210. Que s'est-il passé entre 2022 et 2023? C'est une excellente question.
Bien, c'est probablement de l'ajustement informatique qui permet d'aller bonifier le rendement de la mécanique, d'augmenter le couple au détriment de la puissance, d'augmenter l'autonomie. C'est possible, là. Mais c'est un véhicule méconnu, l'Escape.
Oui.
Moi, je veux dire...
C'est un véhicule qui fait très bien tout ce qu'on lui demande.
Il n'a pas le look d'un gros baroudeur comme un... Bon, on n'a pas le look d'un Toyota RAV4. Je suis d'accord,
mais en même temps, quand on le conduit...
Très bien.
C'est un véhicule qui est maniable, c'est un véhicule qui est spacieux autant à l'avant qu'à l'arrière. Ouais. En version hybride, moi, c'est ce que j'ai bien aimé. Ça consomme trois fois rien.
Ouais. La version hybride à quatre roues motrices, pour notre marché, c'est exceptionnel. Ouais. Ça fait 6 litres au 100. Évidemment, et jusqu'à maintenant, la fiabilité, elle est excellente.
On n'a pas grand reproche à lui.
Ça, c'est l'autre chose. Ouais. Tu regardes chez Ford ce qui est en train de se passer, les problèmes qu'on a avec des Explorer, des Broncos, ouais, des F-150, Mustang Mach-E, nomme-les. Là,
alors que l'Escape, ben...
L'Escape, c'est ça. Puis même le Bronco Sport, ouais, qui utilise la même mécanique, ouais, et le Maverick.
Absolument.
Ce sont des véhicules, jusqu'à maintenant, qui sont très fiables. Alors, c'est un véhicule fortement recommandable. Si vous l'achetez, par exemple, traitement tirouille.
Oui. Et peut-être une petite pellicule là, pour protéger la peinture, pour empêcher qu'elle parte au vent.
Écoute, je parlais avec un ami ce matin qui, lui, son véhicule de fonction est un Escape 2018.
OK.
OK. 165 000 km au compteur, entretenu par le garage où il travaille tout le temps.
Mm-hmm.
Et tu vois, la rouille commence à apparaître au bas de porte. 2018.
Donc, le véhicule a 4. Ça n'a pas de sens. Mais bon. Alors, traitement anti-rouille, oui. À l'intérieur, bon, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus moderne, mais là, tranquillement, on se modernise. On a un écran de 13,2 pouces qui prend toute la place. On a une instrumentation numérique. Bref, on arrive à jour. Je sais que c'est pas ce que tu préfères, mais en tout cas, on est rendu là. Autre nouvelle, c'est rare qu'on fait la liste des rappels de Transport Canada ici à l'émission.
Mais on comprend.
Mais on se permet le clin d'œil. On se rappellera que l'année dernière, pendant les fêtes...
Non, pas pendant les fêtes, le jour Noël, de Noël, oui.
Tu conduisais une Volkswagen GTI de 8e génération avec laquelle tu avais connu un certain pépin, c'est-à-dire que le système de refroidissement s'était vidé au complet, ce qui avait entraîné une surchauffe, puis le bloc avait saisi essentiellement, là, si ma mémoire m'est fidèle, là, c'est à peu près ça qui s'était passé. Et bien là, surprise, on rappelle toutes les Volkswagen Golf GTI et Golf R, donc 2477 unités, les modèles de 8e génération. Pour quelle raison? Parce que le radiateur pourrait ne pas être fixé correctement et le tuyau du liquide de refroidissement pourrait s'endommager.
Ben, en fait, c'est exactement ce qui s'est arrivé. C'est ce qui est arrivé. La durite a lâché. Puis évidemment, le liquide de refroidissement s'est vidé littéralement. Ben oui. Puis voilà.
Et c'est pas recommandé là, de vider.
C'est assez moyen quand même. Oui. C'est ça.
Cette semaine, on fait un petit spécial. Il n'y aura pas de segment réservé aux essais routiers parce que tu es de retour du fameux NACTOY où tu as justement pu conduire une panoplie de nouveaux véhicules. Alors, le prochain segment sera justement consacré à tes premières impressions de ces nouveautés très attendues.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, la semaine dernière, tu te trouvais au Michigan, dans la région de Ann Arbor, pas pour assister à un lancement automobile, mais plutôt pour participer à un événement automobile. C'était le moment de conduire les modèles 2023 les plus attendus avec le jury du véhicule nord-américain, réparti entre la voiture, le VUS et la camionnette. Tu étais là l'année dernière, mais peux-tu nous remettre en contexte là, qu'est-ce que le NACTOY?
Bien, en fait, NACTOY, c'est North American Car of the Year. C'est un prix qui est remis à un constructeur automobile pour la voiture, le VUS et le camion de l'année. On définit camion par châssis autonome, donc évidemment, authentique camion et pas...
Ironique, puisque l'année dernière, c'était le Maverick qui avait gagné, si je me trompe pas.
Oui, bien, une camionnette avec une boîte.
Oui, c'est ça.
Et là-dedans... Puis, ce qui est ironique aussi, c'est que le Bronco avait gagné un VUS.
Et qui, lui, a un châssis.
Mais bref, tu comprends le principe.
Oui.
Alors, on se rassemble là. On est 60 journalistes nord-américains, dont 10% proviennent du Canada, qui se rassemblent là. C'est pas tout le monde qui s'est déplacé pour y aller. Évidemment, il y a des chroniqueurs automobiles américains très, très connus, comme Doug DeMuro, comme... John Davis, qui font partie du jury. John Davis se déplace chaque fois. Cette année, il avait un empêchement. Doug DeMuro, ça a été la même chose. Mais ces gens-là sont quand même membres et vont quand même voter et auront la chance d'essayer les véhicules qui étaient sur place. Mais pour nous, Canadiens, c'est aussi la chance d'aller essayer des véhicules que, auxquels on n'a pas nécessairement accès. Parce que surtout
ou
depuis...
pas encore.
Ben, c'est ça. Parce que surtout depuis le début de la COVID, là, y a un retard qui se crée. Il y a un écart qui se crée entre ce que les Américains obtiennent et ce que nous, on obtient. Pour des raisons assez évidentes. Et donc, ça nous donne la chance d'aller essayer des produits là-bas qui sont un peu plus exclusifs. Si tu te souviens, l'année passée, j'avais pu conduire le Hummer, le GMC Hummer, qui n'est toujours pas arrivé chez nous. Ça fait un an qu'on l'a aux États-Unis.
La camionnette Rivian aussi, tu l'avais
conduite
à ce moment-là.
Camionnette Rivian R1T, c'est ça. Il y avait plusieurs nouveautés comme
les
ça.
Les Golf GTI et R avant qu'elles arrivent encore une fois au Canada.
Exactement, avant qu'on sache qu'il y a eu un rappel.
Oui, c'est ça. C'est bon.
Mais j'avais pu conduire ces produits-là là-bas. Et cette année, bien évidemment, il y avait évidemment beaucoup de véhicules en lice. Plusieurs auxquels j'avais déjà été initié. Par exemple, la Nissan Z que j'avais conduite deux semaines avant de me déplacer pour aller la voir là-bas. Ouais. Bon, la Genesis G90, par exemple, fait partie de ça.
Tu t'es rendu avec la voiture,
je l'ai assez essayé.
Ouais.
J'ai fait l'aller-retour Détroit au volant de cette auto-là. Hey, c'est magnifique. Pour vrai, là, c'est vraiment une voiture d'exception.
Puis comment ça se passe? Est-ce que vous avez une liste de critères établis ou chacun y va avec sa propre grille, son système de pointage?
Moi, j'aime beaucoup l'expression de notre collègue Marc Lachapelle qui appelle ça du speed dating automobile. Parce que, essentiellement, tu prends les clés, tu as 45 minutes, tu vas te promener avec la voiture, tu fais ce que tu veux, tu fais tes propres tests. Puis évidemment, ben si tu es professionnel, tu vas répéter à peu près le même test d'un véhicule à l'autre. Évidemment que si c'est une camionnette 3/4 tonne, tu ne l'essaieras pas comme si c'était une MX-5. Mais
c'est
bref,
différent,
si tu comprends. Mais grosso modo, c'est ça. Tu peux faire tes tests, conduire un maximum de véhicules. Je t'avoue que cette année, je m'attendais à voir quelques nouveautés sur place qui n'y étaient pas.
Comme quoi,
notamment la Toyota Crown, qui était supposée être sur place. Et parce que Toyota a repoussé la commercialisation de quelques semaines, elle n'était finalement plus éligible. Parce que pour que la voiture soit présente sur place, il faut qu'elle soit disponible en concession avant le 31 décembre de cette année.
Alors que la Crown arrivera en début d'année prochaine.
Voilà. Alors, on l'a retiré de là. Même chose pour le Fisker Ocean. Et ça, c'est intéressant comme véhicule parce que moi, je suis très enthousiaste à l'arrivée de ce produit-là que je trouve charmant. Puis tu vois, en parlant avec des collègues américains qui sont peut-être un peu plus proches de l'entreprise et qui ont pu faire des entrevues avec Henry Fisker...
Sont-ils plus sceptiques ou tout aussi enthousiastes?
Sont beaucoup plus sceptiques.
Ah oui, hein?
Sont beaucoup plus sceptiques. Alors, je ne sais pas d'où vient ce scepticisme. Je t'avoue que je n'ai pas creusé la question encore, mais...
C'est difficile là, de percer le marché automobile nord-américain, peu importe la machine qui se trouve derrière toi.
Regarde Imperium, là.
C'est extrêmement difficile.
Imperium, tous ceux qui ont mis des dépôts là-dessus, là, bon, vous allez peut-être les récupérer.
Vous allez les retrouver, mais vous avez perdu deux ans. Un an ou deux, peu importe. Mais c'est difficile de rencontrer les normes. C'est difficile d'établir un réseau de concessionnaires et de charmer la clientèle. Le VinFast, c'est pas gagné d'avance, même si on a un géant derrière soi.
Avec la stratégie de batterie en location, là. Un peu de misère.
Est-ce que les véhicules VinFast étaient là?
Non.
Non?
Et devait, en fait, le VF9 avait été sélectionné, mais comme lui aussi va arriver plus tard, l'année prochaine, c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs véhicules, je m'attendais à ce qu'ils soient là, finalement, ça n'a pas été le cas. Mais il y a eu quand même quelques surprises intéressantes.
Tu as pu conduire une camionnette électrique dont on n'avait jamais entendu parler auparavant, c'est-à-dire la Lordstown.
Lordstown Endurance. Alors ça, c'est une... en fait, l'histoire de l'entreprise est intéressante, c'est-à-dire que ce sont des gens du Michigan qui ont décidé de lancer une entreprise en rachetant l'ancienne usine de General Motors qui est à Lordstown, en Ohio.
D'où le nom.
C'est ça, d'où le nom. Et où on fabriquait jadis, jusqu'à il n'y a pas longtemps, la Chevrolet Cruze, avant la Chevrolet Cobalt, avant la Chevrolet Cavalier, avant la Chevrolet... j'oublie le nom, Monza, et avant ça, d'accord. La Vega. Alors, toutes les voitures compactes de GM ont été fabriquées là-bas.
Et depuis la fin de la production de la Cruze, il ne se passait rien à cette usine-là?
Ben, ça n'a pas été long. C'est-à-dire que rapidement, quand l'usine a fermé, on était déjà en train de travailler à l'élaboration, à la modification de l'usine pour ça.
Parce qu'assembler des voitures compactes à essence et des camionnettes électriques, de grandeur, c'est un peu différent.
Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que on disait quand même que l'usine était relativement moderne. C'était pas une usine qui était complètement désuète. Donc, on n'est pas parti de zéro avec cette usine-là. Mais évidemment, c'est une entreprise qui avait besoin de fonds. C'est une entreprise qui a pour objectif de vendre des véhicules commerciaux. Donc, on s'adresse aux entreprises. Un particulier ne peut pas s'acheter cette camionnette-là, qui est une camionnette pleine grandeur, à cabine multiplace, à caisse de 6,5 pieds.
Qui ressemble à un Silverado de génération précédente. Oui, et tu me disais, à bord, ça se ressent aussi un peu, là.
Bien, à bord, la finition est beaucoup moins belle, là. À bord, c'est une finition utilitaire. C'est du gros plastique rigide et c'est conçu pour durer 1 million de kilomètres, mais c'est pas conçu pour t'offrir un niveau de finition et de luxe intéressant. C'est un camion-outil, véritablement. Et oui, ce qui est drôle, c'est que tout ce qui s'appelle levier d'essuie-glace, clignotant, commutateur à bord du véhicule, ça provient directement de la boîte à outils de General Motors. On est allé emprunter ça là. Comme il y a plusieurs constructeurs qui, par exemple, font appel à Mercedes-Benz pour des leviers de clignotants. Bref, on a vu ça un peu partout dans l'industrie. Tu sais, une Ferrari avec une radio Chrysler, là.
Ouais.
Fait qu'on a vu ça un peu partout. Mais l'idée de ce camion-là, c'est évidemment un camion qui est fabriqué maison, châssis, qui est fabriqué par l'entreprise. Tout a été développé là. Évidemment, on ne fabrique pas officiellement les batteries, mais il y aura éventuellement une usine pour ça. Sauf que, bon, c'est une camionnette qui a une batterie de 108 kWh. L'autonomie est annoncée à 220 000, donc 300-325 km. Là, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant.
Ça, c'est sans remorquer ou transporter quoi
sans
que
remorquer
ce soit,
ou transporter. Mais comme on nous dit là-bas, l'objectif d'un camion comme ça, c'est pour un usage commercial. Alors, le camion commence à travailler à 8 heures, puis il finit de travailler à 5 heures, puis le soir, on le branche.
Oui.
Fait que la logique est là. OK? Maintenant, quel est l'objectif de ce... Bon, évidemment, on arrive avec ce camion-là. J'ai trouvé ça particulier qu'on nous le présente au NACTOY alors qu'il est vendu qu'aux entreprises. Mais entre toi et moi...
Et pas dans tous les États américains, en plus.
Il est vendu dans 3 États pour
c'est
le moment.
Ça,
l'Ohio, le Michigan, la Californie. Évidemment, j'ai posé la question pour le marché canadien. Ah oui, c'est vrai, ça existe, ça, le Canada.
Ouais, bon, tu auras compris
qu'on n'est pas prêt de voir ça. On n'est pas prêt de voir ça chez
non,
nous.
Mais
j'étais allé essayer le camion. C'est rudimentaire dans la mesure où tu entends beaucoup de bruit de route. Il y a des vibrations qui
mais
semblent...
As-tu l'impression d'avoir un véhicule du tiers-monde entre les mains?
Non.
Ou c'est juste un peu rudimentaire?
Tu as l'impression d'avoir un véhicule américain, mais avec un niveau de raffinement limité.
OK.
T'sais, c'est vraiment ça. C'est solide, c'est capable de charger. C'est un camion-outil, bien pensé. Il y a de belles astuces à bord, mais évidemment, bon, puis tu as 2 écrans, là, comme l'écran d'instrumentation, l'écran central. La qualité graphique de ces écrans-là se compare à un jeu Coleco des années 80, mais... L'information est là.
Si tout est présent.
Et semble-t-il qu'on peut faire des mises à jour par nuage. Il y a évidemment un coffre à l'avant, comme dans un F-150 Lightning. Puis évidemment, ben là, poser la question, votre rival, c'est le Lightning Pro, là, littéralement.
Ben oui.
Et la réponse a été à la différence que nous, on sera capable d'en livrer. Parce que Ford ne veut pas en vendre des pros, ils veulent vendre des Lariat, puis ils veulent vendre des Platinum. Eux, il y a une version, il n'y a pas d'option, il n'y a même pas de choix de couleur. Pour le moment, on propose le blanc, éventuellement pourrait venir du gris, du noir. Mais ce qu'on dit de toute façon, c'est que les entreprises qui vont acheter ça vont décorer les camionnettes
bien
aux
sûr.
Couleurs des entreprises. Alors, à quoi bon se battre pour offrir des couleurs?
Est-ce que cette entreprise-là, dont on ne connaissait pas le nom il y a 5 minutes, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres modèles produits par cette entreprise-là?
Bon, ça,
c'est
intéressant.
On va s'en tenir à la camionnette traditionnelle, entre guillemets, électrique?
Bien, c'est intéressant parce que dans le contexte des essais du NACTOY, généralement, you're on your own, c'est-à-dire que tu roules par toi-même. Il n'y a pas de gens pour t'assister.
Tu n'es pas encadré comme dans un lancement.
Mais évidemment, parce que Lordstown veut se faire connaître, il y avait plusieurs représentants de l'entreprise là-bas, il y avait même des ingénieurs. Et moi, lorsque j'ai pris le volant du véhicule, j'ai demandé à un ingénieur de monter à bord avec moi pour que je puisse discuter avec lui. Et lui, visiblement, les relations publiques, il n'a pas encore nécessairement compris tout ce qu'il peut puis ce qu'il ne peut pas dire.
Fait lui, il a tout raconté.
C'est un livre ouvert. Il m'a notamment mentionné que la vibration que je sentais autour de 70 000 à l'heure sur l'autoroute, ça promenait des inverters du système électrique du véhicule. Il fallait qu'il améliore ça. Il m'a nommé plein de défauts du camion qu'il fallait améliorer au fil du temps. Puis lui, il est là pour évidemment améliorer le produit et tout ça. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, mais il m'a aussi vendu un peu d'informations, c'est-à-dire en me disant on va aussi fabriquer une camionnette cabine simple, boîte longue, une camionnette réellement utilitaire. On va en faire des deux roues motrices parce que pour l'heure, c'est intéressant comme camion, c'est des moteurs roues. Il y a un moteur sur chaque roue et ça en fait un quatre roues motrices. Mais dans le cas de la camionnette, à caisse longue, avec
la petite cabine.
Ben là, ça pourrait être une deux roues motrices, okay. Donc avec deux moteurs à l'arrière. Ça viendrait changer la donne un peu. On parle d'un VUS aussi qui pourrait ressembler à un Suburban façon utilitaire. Là. Ouais. Donc, tu te souviens des anciens Suburban qu'Hydro-Québec achetait?
Oui, ça pourrait ressembler un peu à des banquettes en vinyle, des roues en acier.
Un truc de ce genre-là et un fourgon commercial. Tout le monde abandonne le marché de la fourgonnette en ce moment. On comprend mal pourquoi, parce que la demande n'a jamais été aussi forte. Il y a des Amazones de ce monde qui en ont besoin comme jamais, mais Ford abandonne le Transit Connect. Ram abandonne le ProMaster City. C'est écrit dans le ciel que le Ram ProMaster, le fourgon, il y a quelque chose qui va se passer avec ça. Là, parce que si tu veux en commander un demain matin, c'est plus de 2 ans. Le Transit...
C'est énorme.
Le Transit, c'est pas parce qu'on n'en fabrique pas, c'est parce qu'on les garde tous aux États-Unis.
Oui.
Ici, au Canada, il n'y en a pas. Là. Fait que c'est ça qui crée la rareté. Mais ça on en produit beaucoup.
T'sais, quand tu parles d'un fourgon commercial blanc...
C'est ça, avec un V6 3.7
litres. C'est difficile à obtenir. Ça va mal.
Ça va vraiment mal. Alors, eux voient une opportunité d'affaires avec raison.
Il y a une très grande opportunité là. Puis, bon, tu évoquais Imperium tout à l'heure. Effectivement, dans leur plan, il était question, après l'arrivée du premier VUS, d'arriver avec une camionnette intermédiaire qui serait électrique, d'avoir un fourgon électrique. Bon, est-ce que...
Je te confirme qu'on n'est pas rendu là.
On n'est pas rendu là, mais est-ce que Lordstown, ce ne sera pas un feu de paille comme ça aussi?
Ouais.
C'est encore tôt pour se prononcer.
Mais Lordstown, l'avantage de Lordstown par rapport à une compagnie comme Imperium, c'est qu'Imperium doit homologuer ses véhicules, des véhicules qu'on achète en Chine et qu'on amène ici et sur lesquels on met différents emblèmes.
Et vendre un camion qui est fabriqué en dehors des États-Unis, c'est pas facile non plus.
Non, c'est ça. Alors que quand tu crées de l'emploi aux États-Unis, tu comprends, c'est pas la même dynamique. Fait que oui, il y a un avenir pour cette entreprise-là, surtout qu'elle est très fortement soutenue par Foxconn, qui est l'entreprise à qui on doit notamment les iPhones, les iPads, parce qu'eux fabriquent ces appareils-là. C'est aussi eux qui ont racheté l'usine de Lordstown en Ohio pour la fabrication de ces camionnettes-là.
Donc, pas un petit joueur. Là.
Pas un petit joueur, et ils sont copropriétaires de l'entreprise. Alors, il y a des fonds, là, tu comprends-tu?
Absolument.
Ça a l'air très, très, très sérieux. Le camion, est-ce qu'il l'est? J'ai trouvé ça honnête. J'ai pas trouvé ça raffiné. Si vous prenez le volant de ça puis que vous prenez le volant d'un F-150 Lightning Pro après, vous allez découvrir qu'il y a 20 ans de différence entre les deux.
Et le roi de la transition que tu es, tu as aussi conduit le Ford F-150 Lightning Pro avec la petite batterie.
Avec la petite batterie. Et ma conclusion est la suivante. Moi, j'ai conduit beaucoup le F-150 à grosse batterie. Et sais-tu ce que je me rends compte, c'est que il y a un juste milieu entre le poids supplémentaire que viennent ajouter de plus grosses batteries dans un véhicule et l'économie de poids qui te permet d'économiser au rendement avec une plus petite batterie.
Donc, une plus petite batterie, on est plus léger, donc plus efficace forcément.
Bien, écoute, il y a 800 livres de différence entre...
C'est considérable, là.
800 livres de différence entre un Lightning Pro, bien, en fait, il y a même 900 livres de différence entre un Lightning Pro puis un F-150 Lightning Platinum, tout ce que tu, tout équipé. Cette différence-là, elle est à ce point marquante que le comportement routier du véhicule, et je ne te parle pas de puissance encore, mais le comportement routier du véhicule est nettement à l'avantage du Lightning Pro. On n'a pas de roues de 22 pouces qui cognent dur, qui n'ont pas de bon sens. On n'a pas de rebond des suspensions incroyable comme avec un Platinum qui est beaucoup plus lourd. On n'a pas l'impression de se battre pour déplacer une masse comme avec l'autre, même si l'autre a plus de puissance. Parce qu'évidemment, la grosse batterie, avec les moteurs, ça te permet d'aller chercher 580 chevaux, 452 avec la petite batterie. Mais tu sais quoi? Au niveau accélération, on est à peu près à la même place, à quelques dixièmes de seconde pour un 0-100 km/h, mais le commun des mortels n'y verra que du feu.
Donc, autant en termes d'autonomie qu'en termes de performance, ben, la version à grosse batterie est désavantagée par son surpoids.
Elle est fortement désavantagée par son surpoids, parce que ce que j'ai pu constater, puis j'aimerais réussir à refaire un test avec le Lightning Pro ou avec un modèle à petite batterie pour le conduire sur une longue distance. Mais mon feeling, c'est qu'on annonce 375 km avec ce camion-là d'autonomie électrique. Ce que tu vas probablement réussir à faire. Ou en tout cas, tu vas te rendre vraiment pas loin.
Ce qui est bien.
Alors qu'avec un Lightning à batterie de 131 kWh,
oublie ça. Tu feras jamais les 500.
Oublie ça, le 515 km, là. Moi, j'ai conduit de façon normale, docile, puis ça consomme 29-30 kWh par 100 km. Fais le calcul, tu as 131 kWh de batterie, 4 kWh de batterie. Alors, 4 fois 30, t'es à 120 kWh. Tu fais 400-425 km, c'est ce que tu fais
mais
avec ce camion-là
500.
À l'âge. Mais jamais 500. Puis moi, attention, je l'ai conduit dans un contexte où tu n'utilises pas trop le chauffage ni la clim, tu sais, bon... Puis bon, puis je t'ai expliqué, je n'ai parlé maintes et maintes fois, là, j'ai remorqué aussi avec le camion, puis l'autonomie a baissé de moitié à 200-225.
Ça fera l'objet d'un reportage télévisé, d'ailleurs.
C'est ça, exactement. Mais le Lightning Pro, qui est un camion utilitaire, dans lequel, effectivement, tu as des sièges en vinyle, tu as des tapis de caoutchouc.
Mais au Canada, c'est réservé aux entreprises, si je me trompe pas.
Au Canada, c'est réservé aux entreprises et bonne chance pour en avoir un, on n'amènera pas. Là. La vérité, c'est que ça existe à peu près pas.
C'est un modèle théorique qui
c'est ça.
Pour le Canada.
Surtout au Canada. Aux États-Unis, il va en avoir, là, mais au Canada, là, oublie ça. N'empêche, c'est un camion exceptionnel et je peux te garantir que le F-150 Lightning, c'est le camion de l'année 2023. Parce qu'en lice, il y avait la camionnette Lordstown qui est clairement pas...
Qui est intéressante, qui est une belle curiosité.
Ouais, mais
un point pour l'effort, mais on ne la nommera pas camionnette de l'année.
Il y avait évidemment le Lightning dans toutes ses versions et il y avait accessoirement un Silverado ZR2 à moteur de 6,2 litres, ce qui n'est pas nécessairement tout à fait tendance.
Non.
Fait que je te confirme que le Lightning va gagner. Ça, c'est ma prédiction.
D'accord. Assez parlé de camionnette électrique.
Ouais.
Passons à une petite voiture rayon à moteur 3 cylindres, la Toyota GR Corolla. J'avais fait un tour comme passager sur la piste plus tôt cette année avec un pilote de drift. Bon, j'avais trouvé que c'était un véhicule très cool, enfin. Bon, d'accord. Mais en même temps, la sonorité, ça m'avait énormément déplu. Quand j'étais monté à bord et que j'avais vu le même intérieur que dans une Corolla ordinaire, j'étais un peu resté sur mon appétit, mais j'avais pas pu la conduire. Ce que toi, tu as pu faire, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ben moi, je l'ai pas conduit sur une piste, cependant.
Non, mais tu as pu la conduire véritablement. Là.
Alors, vous pourrez aller lire sur le site du Guide de l'auto l'essai de mon collègue Marc Lachapelle qui l'a conduite là-bas aussi. Comme lui, je suis d'accord à dire qu'il y a un creux au niveau de la réponse à l'accélération. Est-ce que c'est pour une question de réponse d'un accélérateur électronique ou ce qu'on appelle en bon français un turbo-lag?
Donc quoi, autour de 3000, 3500?
Ça se réveille à 3000. Okay. Ça se réveille à 3000, mais il y a comme un délai. Tu veux pas ça dans une auto comme ça. Ça, j'ai trouvé ça décevant. Deuxièmement, bon, évidemment, boîte manuelle 6 vitesses, 4 roues motrices. Je me souviens pas de la puissance exacte. 300
quelques chevaux.
300 quelques chevaux, là. Bon, blanc de mémoire, mais c'est une auto dont le look est magnifique. En passant, là, moi, j'adore ça. La voiture est courte, elle est trapue, les voies sont élargies, des gros freins. Tu sais, elle a du caractère. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et
on est à 300 chevaux.
300 piles,
pile, okay. Oui.
Et c'est la seule...
Ah, elle a une personnalité incroyable, là, quand on la regarde, là.
Et c'est la seule sportive chez Toyota qui est une authentique Toyota. Parce que si tu regardes une Supra, c'est une BM. Ouais. Et si tu regardes une Toyota 86, c'est une Subaru. Mais
ce sont des véhicules développés en partenariat, oui, avec d'autres manufacturiers.
Mais ça, c'est une authentique Toyota.
Oui.
Avec un moteur 3 cylindres, turbo compressé, boîte manuelle 6 vitesses, 4 roues motrices, différentiel verrouillable. Tu sais, il y a quelque chose à glissement limité. Alors, c'est vraiment une machine impressionnante sur le plan technique. Maintenant, tu pars avec ça. Et comme tu dis, l'intérieur, ça fait char à 20 000 $.
Puis c'est correct, parce qu'on a peut-être voulu économiser en poids de ce côté-là, ouais, d'accord, en y allant.
Mais j'ai pas eu le choix, en me prenant place à bord de cette auto-là, d'effectuer l'exercice de comparaison avec une Golf R, qui est littéralement une voiture de luxe à comparer de ça. Là.
Qui est aussi une compacte à haillons, à puis quatre roues motrices, comparativement à la Civic Type R, qui, elle, et traction.
Oui, et l'écart de prix entre une Golf R et une Corolla, une GR Corolla, c'est 2000 $.
Tu sais, c'est aussi bien dire qu'il n'y en a pas d'écart.
Bon, maintenant, tu t'assois dans la voiture, j'ai été déçu par les sièges, tu n'as pas assez de support, ils ne sont pas très jolis non plus.
Non.
On aurait pu se forcer pour mettre, à ce prix-là, on aurait pu se forcer de mettre des sièges avec lesquels tu as des supports, puis tu as des sièges plus sport, comme dans la Civic Type R.
Ouais,
ça, il manque ça.
Avec vraiment du support latéral.
Oui. Maintenant, tu sais comment je déteste les moteurs à 3 cylindres.
Oui.
Écoute, c'est surprenant ce qu'ils ont fait avec ça. Ça s'est réveillé pas à peu près.
Ça frappe l'imaginaire.
Et j'ai très hâte de voir comment cette voiture-là va se comporter dans la neige, particulièrement parce que...
Avec quatre roues motrices, ça devrait être assez
agile. La voiture a vraiment l'air conçue pour pouvoir être brassée en... Tu sais, autrement dit... Tu regardes le look, tu regardes comment elle est conçue, tu regardes comment la voiture est protégée au niveau sous-bassement. C'est pas juste une voiture de piste, là. C'est une vraie auto de tous les jours que tu peux exploiter. C'est sûr que le prix est élevé, mais...
Est-ce que tu penses que...
La chose la plus cool de cette auto-là, tu sais c'est quoi?
Vas-y.
C'est que c'est une voiture cool, c'est une voiture rare, puis c'est une voiture que Toyota ne fabriquera pas deux fois.
Non,
on vient pas de partir une légende qui va durer pendant 25 ans, c'est évident que non. On va faire une GR Corolla pour cette génération et fort probablement qu'après ça, il n'y en aura pas d'autres.
Ou elle sera électrique.
Puis, de toute façon, c'est une ou deux unités par concession.
Oui, la distribution est très, très limitée. Est-ce que tu peux penser que des anciens acheteurs de Subaru WRX STI, par exemple, pourraient se procurer cette voiture-là, sachant que la STI n'existe plus? Ou on n'est pas...
C'est pas le même ADN, mais oui.
OK.
C'est sûr que moi, je m'assois dans cette voiture-là, puis le clin d'œil que j'ai, c'est que je la vois habillée avec les couleurs des Celica All-Track de course des années 90.
Je vois.
J'ai
plutôt
ça un peu
grima en tête. Comme les photos officielles de presse.
Ouais,
là,
c'est ça. Tu sais, blanc avec les bandes sur les côtés. Puis tout ça, là, je la voyais un peu comme ça. Mais c'est une voiture très cool. Est-ce que ça a une chance de gagner la voiture de l'année? Ben non, là. Mais honnêtement, c'est une... Tu parlais tantôt de très belles curiosités. Une GR Corolla, c'est une voiture de passion. C'est une voiture sans compromis aussi.
Oui.
Tu sais, mais c'est certainement pas aussi aiguisé et précis au niveau de la conduite qu'une Civic Type R, dont j'ai pas le droit de te donner mes impressions parce que ça a l'air qu'il y a un embargo.
Ça suivra plus tard.
C'est ça. Ben, enfin, bref.
Tu as aussi conduit un VUS électrique, le Audi Q4.
Plusieurs, en fait.
Oui, plusieurs.
Le Lyric, le Aria, il y en avait...
Concentrons-nous tout de suite sur le Audi Q4 e-tron qui arrivera au Canada bientôt ou on devra patienter?
Il est déjà disponible. On a commencé à en livrer depuis à peu près un mois chez les concessionnaires. La version que moi j'ai pu conduire là-bas, c'est une version Sportback qui est très fortement désavantagée au Canada par le fait que Son prix de départ étant au-delà des 60 000 $ il est non subventionné, alors que le modèle régulier est totalement subventionné parce qu'on a une version à 59 950.
Est-ce qu'on fera comme on a fait avec le XC40 Recharge et le C40 Recharge, c'est-à-dire d'offrir deuxième année de commercialisation une version un peu moins chère, faudrait purement théorique?
Faudrait qu'on le fasse, mais mon feeling, c'est que de toute façon, on les vend pareil.
Ben oui, bien sûr.
J'ai parlé à notre ami Éric Tremblay de chez Audi Parc Avenue sur la rive sud de Montréal, qui nous disait, qui me mentionnait qu'actuellement, il entre en concession entre 8 et 10 Q4 e-tron par mois. Okay. On a plus de 400 commandes.
Ça finira jamais.
Fais le calcul, là. T'sais, tu vas te faire livrer ton Q4 en 2027, là, si tu commandes aujourd'hui.
Ça finira jamais.
Ça n'a pas de bon sens. Cependant, le Q4, on le sait, tu sais, on était tous un peu OK, c'est un ID4 de luxe, oui, là, à la sauce Audi. Oui. Rien à voir.
OK.
Rien à voir dans la conduite.
Même évidemment, si c'est la même plateforme, les mêmes batteries, les mêmes moteurs électriques, même si tout est pareil.
La même puissance, la même façon de gérer la puissance. Mais
est-ce qu'il est assemblé en Allemagne ou il est assemblé
à Chattanooga, en Allemagne? Oui, c'est un véhicule allemand. Donc, okay, évidemment, la disponibilité qui est problématique. Puis oui, pourquoi ça a pris autant de temps à ce qu'on le reçoive? C'est aussi parce que on se bat pas juste avec les États-Unis, mais avec l'Europe pour l'obtenir. Donc, c'est un véhicule très rare, très convoité. Ça pourrait fort probablement devenir l'Audi le plus vendu parce que, entre toi et moi, tu réussiras pas à me vendre un Q5 si je peux acheter ça, là. Jamais.
Au même prix ou plus
c'est,
ou moins.
C'est littéralement un Q5 électrique à conduire avec la même précision dans la direction, avec la même solidité de châssis, avec le même plaisir au volant.
Une autonomie qui ressemble à celle du ID4?
Oh oui, c'est 388 km. Puis tu vois, moi, j'ai fait... en l'essayant, l'équipe et moi, on l'a essayé là, pour un tournage. Puis tu vois, on était à faire 380, donc on est pile poil dessus. Et tu vois, je me suis envenu au bureau ce matin avec le véhicule.
Oui.
J'ai activé le chauffage.
Oui, parce que c'était pas chaud ce matin.
C'était pas chaud à matin. Puis tu vois, on était à 0 degré quand je suis parti de la maison. L'autonomie affichée est à 206 km. J'ai activé le chauffage, le dégivreur au fond. Puis c'est baissé à 160. Donc, tu perds 20 %.
Ben oui, c'est la norme, là, j'aurais tendance
à
dire.
C'est ça. Il fait pas moins 20, mais, tu sais, bon.
Parle pas de moins 20, non, s'il te plaît. Pas encore.
Je veux juste te dire qu'autant l'ID4
m'indiffère... Autant l'ID4, pour nous, n'est pas une Volkswagen...
Ben, c'est ça.
Autant le Q4, semble-t-il, oui, est un vrai Audi.
C'est ça. C'est l'ID4 m'indiffère dans son comportement, dans sa direction, dans sa façon de conduire. C'est mou, c'est générique comme véhicule, mais ça va faire le travail pour beaucoup, beaucoup de gens. En fait, l'ID4 est au Tiguan, le Q4 e-tron est au Q5, par exemple. On est vraiment là.
OK.
T'sais, autant un Tiguan, là, ça m'excite comme un bol de Cheerios, mais...
Je comprends tout ça.
On est exactement là. Puis, je veux te parler brièvement de deux véhicules qui m'ont amèrement déçu. Le Nissan Ariya.
Oui. Qui est plus gros que les autres multisegments électriques comme le ID4.
Voilà. Alors, plus gros, très bel aménagement. C'est super bien pensé en dedans. À l'extérieur, le style de ça, c'est...
Ouais, c'est une livre de beurre qui est un peu fondue.
Mais qu'est-ce que c'est lourd!
Ben oui.
C'est effrayant. Pas, hein? C'est effrayant. Et Nissan, qui a été le premier constructeur à amener un véhicule 100% électrique de masse sur notre marché, a pris un retard catastrophique pour nous arriver avec un véhicule qui n'est pas particulièrement impressionnant. Moi, je m'attendais vraiment à une révolution de la part de Nissan.
C'était le cas de la Leaf de première génération.
Oui.
C'était innovateur. C'était franchement révolutionnaire. Mais puis là, on a eu quoi? 10 ans pour développer un véhicule électrique de deuxième génération. Puis on n'y est pas.
Puis, attends, là, le véhicule que j'ai conduit, c'est la petite batterie.
On parlait du ID4 il y a quelques instants. Quand tu regardes le chemin parcouru entre la Volkswagen e-Golf et l'ID4, il y a un écart considérable. Là. Puis oui, entre une livre...
En beaucoup moins de temps.
En beaucoup moins de temps. Et là, l'Aria, il est toujours pas arrivé. Là.
Il est toujours pas arrivé.
Ben, c'est
un Aria de se le faire livrer.
Effectivement.
C'est ça.
Alors, première déception, deuxième déception?
Deuxième déception, c'est le Lexus RX.
Oui.
OK.
Que moi, j'avais vu de
pas,
près, mais je ne l'ai
pas... Pas sur le plan technique ou mécanique, pas sur le plan du confort. On est encore dans un authentique Lexus, qualité de fabrication.
Même si on n'a plus de moteur à 6 cylindres.
Puis tu sais, j'étais heureux chez Lexus de voir disparaître les données pavées,
oui.
Souris tactiles, là, compliquées. Mais on a été assez sans dessein pour aller te placer des boutons sur le volant qui vont te permettre de gérer l'instrumentation et les... Donc, par exemple, si tu veux remettre à zéro l'odomètre journalier, si tu veux aller modifier ta musique dans l'instrumentation centrale, si tu veux avoir ta cote de consommation moyenne ou en temps réel...
Bref, des manipulations quotidiennes.
Peu importe ce que tu veux faire dans ton bloc d'instrumentation, eh bien, tu as des boutons sur le volant. Les modifications se font visuellement à travers la visualisation tête haute dans le pare-brise, donc une information numérique qui est reflétée dans le pare-brise. Et ensuite, tu vois les changements dans l'instrumentation. Mais tu ne peux pas dire, tu regardes l'instrumentation puis tu le fais avec les boutons directement. Faut que tu passes par le heads-up display.
C'est pour ne pas que tu quittes les yeux de la route. Est-ce que tu as des verres polarisés?
Ben, t'as tout compris. Moi, je conduis avec des lunettes soleil. Alors, oublie ça, tu vois rien. Ouais. C'est compliqué, là, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, les Allemands, on a longtemps dit ça, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué?
Ouais.
Lexus, là...
A tout compris ça.
Tu sais, écoute, ça n'a aucun sens. C'est un deal breaker pour moi. C'est trop compliqué, là.
Ouais, on n'est pas des ingénieurs informatiques, là.
Garde, là. Faites ça simple. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Ça a été deux véhicules qui m'ont un peu déçu, ouais.
En 30 secondes, en terminant, tu nous as parlé de tes prédictions pour la camionnette de l'année, qui serait le F-150 Lightning. Voiture de l'année, selon toi, et VUS de l'année, selon toi.
Oh my God. VUS, j'ai vraiment aucune idée. On a eu la discussion, ouais. Là. Il y a beaucoup de possibilités. C'est très, très, très difficile à dire.
Et pour la voiture de l'année,
Pour la voiture, je t'avoue que j'ai... En tout cas, si elle ne gagne pas, elle va être dans le trio de tête.
C'est G90.
La G80.
G80?
Ça sera pas... La G80 100% électrique...
Ah, je vois.
...a été un coup de cœur pour tout le monde là-bas. Okay. La G90, c'est trop niché comme voiture, okay. Je pense. Mais la G80 est une bagnole qui a impressionné bien des gens. 100% électrique. Tu sais, cette voiture-là est disponible avec un 4 ou un 6 cylindres, mais quand tu prends le volant de cette auto-là, 100% électrique, puis tu stationnes ça à côté d'une Model S,
ouais.
Tu fais, OK, on est complètement ailleurs, là. On est complètement ailleurs.
Et tant mieux pour Genesis.
Puis c'est sûr que t'as pas la performance électrique d'une Tesla Model S. Mais à quel point t'as besoin d'avoir ce niveau d'autonomie? À quel point t'as besoin de boucler le 0-100 en 3 secondes?
Personne,
je veux dire. Donc, je pense que cette voiture-là a des chances. Sinon, écoute, dans les voitures, est-ce qu'il y avait un véritable coup de cœur? Je suis obligé de te dire qu'il y a bien des gens qui ont été impressionnés par le CR-V hybride.
Ah oui.
Et j'espère du plus profond de mon cœur que ce véhicule de 51 000 $ ne gagnera pas parce que le prix n'a pas d'allure. Mais
on verra.
C'est quand même un produit convaincant aussi. Le prix n'a pas de bon sens. Puis aux États-Unis, il y a deux versions de l'hybride. Là.
Oui, ce qu'on n'a pas au Canada.
J'ai essayé une version Sport Touring là-bas, hybride. Mais bref, à suivre.
Et quand est-ce qu'on connaîtra les résultats?
Les résultats finaux vont être dévoilés en janvier. Première semaine de janvier, on avait d'habitude...
Au salon de l'auto de Détroit, oui, mais le salon de l'auto de Détroit est un peu plus tard.
Et ça ne se fera pas au CES. Ça se fait à Détroit. Fait oui. Que, voilà.
Merci beaucoup, Antoine.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, terminons l'émission avec quelques questions des auditeurs. On a Xavier qui nous mentionne qu'il sera prochainement amené à parcourir 50 000 km sur une base annuelle. Est-il plus avantageux de financer une voiture neuve dans son cas ou d'opter pour une location et de payer les pénalités à la fin du bail? Il envisage aussi l'achat d'un véhicule d'occasion récent pour profiter de la dépréciation. Bon, on sait que de la dépréciation d'installation en ce moment. Il n'y en a pas partout. Ouais, il cherche une berline spacieuse, très confortable et à 4 roues motrices. Il avait en tête la Volkswagen Arteon et la Toyota Camry. Qu'en penses-tu?
Deux voitures bien différentes. C'est sûr que l'Arteon est immensément plus dynamique, plus cher aussi. Mais je suis pas certain de comprendre parce qu'évidemment, la location sur un véhicule d'occasion, c'est jamais recommandé. Ça, c'est évident. Et en ce moment, de toute façon, et surtout avec le kilométrage que vous faites, la location n'est tout simplement pas pour vous. En vérité, vous faites du kilométrage, vous êtes probablement payé au kilomètre pour ce que vous parcourez, j'ose imaginer. C'est une déduction fiscale pour vous, l'automobile. Achetez-la. Acheter la neuve, parce que de toute façon, si les taux d'intérêt ont grimpé au financement pour des voitures neuves, dites-vous quand sur le marché de l'occasion, c'est la même chose. Ça vaut la peine d'aller vers une voiture neuve que vous allez garder le plus longtemps possible dans le but de la rentabiliser. Et comme tu disais, Germain, les voitures déprécient à peu près pas en ce moment.
Le seul avantage d'acheter un véhicule usagé d'un an ou deux,
c'est que
tu l'as maintenant. C'est voilà. Ça. Ce qu'on peut faire quand on a un accident avec son véhicule, par exemple, quand on doit s'en retrouver un pour le lendemain, ouais. Mais sinon, si on est capable de patienter un peu, de commander la Camry de son choix puis de l'attendre, ben c'est peut-être la meilleure chose.
Maintenant, il existe d'autres voitures à 4 roues motrices sur le marché dont on oublie. Hein. On peut penser à la Kia K5 qui est très convaincante. Une voiture qui est méconnue, mais qui a un comportement intéressant. Plus intéressant en ce qui me concerne que la Camry à 4 roues motrices.
Peut-être moins spacieuse?
Ben, on n'est pas vraiment là, mais si tu veux beaucoup d'espace, tu as aussi la Nissan Altima.
Oui.
Bon, ça, c'est une voiture qui va déprécier.
Qui a 4 roues motrices.
Qui a 4 roues motrices, qui va bien, qui consomme 3 fois rien. C'est vraiment économique. J'avais déjà fait le test entre une Altima à 4 roues motrices et une Nissan Micra pour vous dire que l'Altima consommait moins.
C'est quand même quelque chose, hein? Oui.
Alors, ça peut être une voiture intéressante aussi. Évidemment que la Camry, c'est une bonne valeur, là, mais c'est sûr qu'il faut aller vers l'achat, non pas la location, et idéalement vers du neuf, parce que acheter légèrement usagé en ce moment, il n'y a pas vraiment d'intérêt, comme tu dis, mis à part qu'on l'a tout de suite.
On a Luc qui nous mentionne qu'on lui a conseillé d'installer une pellicule transparente sur le capot et les pare-chocs de son véhicule. Or, il se demande comment vieillit ce type de pellicule, au bout de 5 ans.
Ben, ça vieillit beaucoup mieux qu'une peinture. Croyez-moi, c'est...
puis, tu sais... Donc, même au bout de quelques lavages, puis après quelques hivers, là,
c'est sûr que si vous avez tendance à gratter votre peinture avec votre grattoir à glace l'hiver, c'est pas une bonne idée. Mais ça va être encore pire avec la peinture. Ce que ça fait, une pellicule comme ça, c'est que ça vient protéger complètement la peinture de votre véhicule. Et si au bout de 4, 5, 6 ans, la pellicule s'est endommagée, ce qui me surprendrait énormément, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de décoloration comme telle.
Ça ne jaunit pas comme ça a déjà jauni.
C'est ça, premièrement.
À condition d'opter pour une pellicule de qualité. Là.
Bon, premièrement, les pellicules de qualité aujourd'hui ne changent pas de couleur, n'altèrent pas la couleur de la peinture si elle est entretenue adéquatement et vont s'auto-corriger, c'est-à-dire que si jamais il y a des égratignures qui sont faites sur les pellicules, avec la seule chaleur du soleil, ça peut se replacer. Sinon, vous prenez un séchoir à cheveux et ça se replace. C'est vraiment surprenant. Ça vaut absolument la peine. Moi, j'achète un véhicule neuf, je fais installer ça, c'est garanti. C'est la façon au Québec de protéger sa peinture. Il n'y a rien de plus cher sur une voiture que de réparer ou de repeindre. Alors, une pellicule, même si ça vous coûte 800, 1000, 1200 $ pour protéger adéquatement, c'est carrément un investissement. Alors, vous n'avez rien à craindre là-dessus.
On a Edith qui voudrait connaître ton choix entre une Chrysler Pacifica hybride rechargeable 2022 et une Honda Odyssey 2022 également. Elle mentionne que le prix aux 2 semaines est similaire. Elle est dans la région de Charlevoix et parcourt environ 20 000 km par année.
Je suis très déchiré parce que, évidemment qu'on sait que la Honda Odyssey va être fiable longtemps. OK? Ce qui n'est peut-être pas le cas de la Pacifica hybride rechargeable avec laquelle on a connu un lot de problèmes. Semble que ces problèmes-là se soient en grande partie corrigés, mais si vous me demandiez quel véhicule va être le plus fiable sur 10 ans, je n'ai pas le choix de vous dire la Honda. Par contre, la Honda, elle est immensément plus gourmande, pas besoin de vous dire ça. Vous allez faire du 50-60 km en mode 100% électrique avec la Pacifica, après quoi vous roulez à du 7 litres, 7 litres et demi au 100.
Ce qui n'est pas le cas avec une Odyssey.
Ce qui n'est pas le cas avec une Odyssey. Puis, évidemment, l'avantage de la Pacifica, c'est que vous bénéficiez aussi des crédits gouvernementaux. Donc, si c'est un véhicule que vous avez l'intention de garder 4, 5, 6 ans, moi, j'irais chez Chrysler. L'Odyssey, en ce moment, c'est le produit le moins convaincant dans le marché de la fourgonnette.
Peut-être il existe... le moins à jour aussi.
Oui, mais il y a une Carnival qui est super intéressante. Oui. J'en possède une moi-même avec mon entreprise. C'est un produit remarquable, très fiable, pas gourmand, moins cher que la compétition. Alors, j'irai là probablement avant une Honda Odyssey. Mais si vous voulez avoir une hybride rechargeable, bien évidemment, là, la Pacifica, c'est la seule option possible.
Merci beaucoup, Antoine. Bonne fin de semaine et repose un peu ta voix.
Ben oui, hein? Ça ressemble un peu à ça.
Ça ressemble à ça.
Au revoir.